Imaginez une femme au parcours assez banal, avec un travail, une famille, des amis, envoyer un jour une lettre à Nordal Lelandais, Patrice Allègre ou Guy Georges et en tomber amoureuse au point de se marier ou avoir un enfant. N'aimeriez-vous pas savoir ce qui a pu lui passer par la tête ? C'est le travail qu'a fourni Valérie Benahim pendant presque 2 ans et qu'elle relate dans son livre « Il n'est pas celui que vous croyez » aux éditions Fayard. La chroniqueuse pour Touche pas à mon poste et animatrice télé a rencontré psychologue, avocat, criminologue et même certaines de ses femmes en osant le pire, c'est-à-dire comprendre. Bonjour Valérie Benahim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous recevoir.
Je vous en prie.
Donc vous avez sorti ce livre, il n'est pas celui que vous croyez, aux éditions Fayard, et c'est un drôle de sujet quand même, de s'intéresser à des femmes qui sont tombées amoureuses de tueurs en série. Comment vous est venue l'idée d'écrire un tel livre ?
J'aime beaucoup parce que chaque fois qu'on démarre ce genre d'interview, je suis regardée de façon suspecte. Pourquoi a-t-elle choisi ce sujet-là ? Il se trouve que je travaillais à la rédaction de l'émission Touche pas à mon poste, pour laquelle je travaille régulièrement, je collabore régulièrement. Et j'ai toujours, moi, une habitude un peu de rédaction où je laisse la télé allumée sur les chaînes infos et c'est un peu un fond sonore. Et là, pour une raison que j'ignore, et il faudra peut-être que je psychanalyse là-dessus, j'ai été frappée par un sujet. Le journaliste, à ce moment-là, dans mon écran de télé, évoque l'irruption dans le dossier Nordal Lelandais et la grande affaire que sont les meurtres de Maïlys et du caporal Arthur Noyer. L'irruption dans ce dossier d'une femme qui aurait... À l'époque, on utilisait le conditionnel, passer de la drogue, de l'alcool, et qui serait donc tombée amoureuse de Nordal Lelandais. Et j'avoue que cette information m'a frappée par son incongruité, en fait. Ça me semblait tellement d'une banalité absolue, un homme qui tombe amoureux d'une femme, une femme amoureuse d'un homme, et que ça n'avait pas lieu d'être dans cette affaire-là, que ça m'a frappée. Et j'ai tout lâché de ce que j'étais en train de faire pour commencer à taper frénétiquement sur mon ordinateur et voir ce qu'il en était de cette histoire, de cette femme, est-ce qu'on en savait quelque chose, qui était-elle, etc. Et puis, il a fallu que je fasse ma journée et en rentrant de l'émission, je me suis remise dessus. Et puis, je suis allée voir si ce phénomène était un phénomène absolument unique, j'étais farfouillée aux États-Unis. Là, j'ai vu que c'était quand même plus conséquent. Je me suis dit, ce sont nos cousins américains peut-être un peu fous, un peu lointains.
Oui.
Et puis, j'ai rapproché la loupe vers l'Europe. Et là, j'ai vu qu'en pointant de plus en plus et en me mettant de plus en plus sur la France, non seulement c'était un phénomène européen, mais aussi français, et que ce n'était pas un épiphénomène, et qu'il y avait quelque chose d'assez intriguant dans ces histoires-là. Et en tant que femme, en tant que mère et en tant que journaliste, ça me donnait envie de travailler dessus. Et à partir de là, je n'ai plus quitté ce sujet.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent à des détenus. C'est vraiment un phénomène très courant.
C'est un phénomène assez courant qui est au départ un phénomène, j'allais dire, presque de charité chrétienne. C'est de l'ordre de la main tendue, de la rédemption, de la seconde chance. Ce sont des hommes emprisonnés. Alors, ce ne sont pas tous, évidemment, des tueurs en série, mais on va écrire... parce que ces hommes-là un jour vont sortir et que pendant ce laps de temps il faut qu'ils deviennent des hommes meilleurs, donc on essaye de leur dire vous n'êtes pas seuls, on vous accompagne sur le chemin, et donc la plupart d'entre elles ne sont pas du tout animées par une envie d'une relation amoureuse ou autre, c'est vraiment tendre la main et dire on vous accompagne. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a en prison des femmes qui viennent visiter des prisonniers pour leur donner des cours de français ou autre, vous voyez ce que je veux dire, ça part vraiment de là au départ. Et puis après, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça, qui est, moi, je pense, de l'ordre du désir féminin. Alors, quand on dit féminin, on dit des bêtises parfois, parce qu'on ne va pas essentialiser. Mais malgré tout, dans le désir féminin, il y a quelque chose, qui transcende les choses. Et on est dans « mon désir est tellement puissant et tellement fort que je peux changer l'autre ». Et que je vais changer l'autre, que je vais changer le mal en bien, le plomb en or. Et je suis plus forte que tout. Et mon amour sera tellement fort qu'il va changer l'autre.
Et donc, il y a un nom pour parler de ce phénomène ?
Oui, ça s'appelle l'hébristophilie. Alors, l'hébristophilie, c'est pas simplement celles qui écrivent. On est sur celles... L'hébristophilie, c'est vraiment quand on tombe amoureuse de quelqu'un qui a commis des crimes et qu'on est attiré par des gens qui ont commis des crimes de sang. Mais encore une fois qu'on a dit l'hébristophilie, on a tout et rien dit.
Oui, c'est ça. Quelles sont les raisons ? Parce qu'elles tombent amoureuses, certes, mais qu'est-ce qu'elles recherchent ? Est-ce qu'elles recherchent vraiment que l'amour ? Ou est-ce qu'elles ont sentiment d'interdit en se disant je discute avec un détenu, c'est quand même pas donné à tout le monde ?
Je crois qu'il y a un peu de tout ça, en fait. On va pas... Ce sera un un peu manichéen d'être monolithique et de dire un tel ou une telle, pardonnez-moi, cherche uniquement l'amour, l'autre c'est le goût du frisson, etc. On est tous un peu des millefeuilles avec des couches. Évidemment qu'il y a le goût du frisson pour certaines, pour d'autres il est totalement inavoué, voire enfoui complètement. Et se superposent aussi d'autres choses, comme ce désir féminin, comme l'envie de la rédemption, comme parfois pour certaines, un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'avocate, le syndrome de l'infirmière. Mais tout ça est éminemment entremêlé. Peut-être que pour certaines, il y a une prédominance infirmière, une prédominance avocate, etc. Mais malgré tout, et nous toutes, y compris celles qui n'écrivons pas, on est traversées par tout ça. Et puis après, c'est ce que Daniel Zaguri, que j'interview dans le livre, appelle la combinatoire et le singulier. La combinatoire, ce sont ces symptômes dont je vous ai parlé et qu'on a toutes en nous. Hein, l'infirmière, l'avocate, la main tendue, la charité chrétienne, etc. Vous aurez compris de dont je parle. Et puis le singulier, c'est notre vie privée, notre enfance, nos vécus, nos traumas, qui vont faire que peut-être vous ou moi, on n'ira pas écrire. Oui. Certaines iront écrire, mais s'arrêteront là et resteront à une main tendue. D'autres voudront encore aller plus loin et rencontrer le prisonnier en détention. Et puis certaines vont même franchir encore une transgression supplémentaire, qui est celle de tomber amoureuse, et tomber amoureuse d'un prisonnier qui n'est pas anodin, qui est celui qui a du sang sur les mains.
Oui, c'est ça. C'est ça justement qui intrigue, et je pense qu'une des questions, des premières questions, après celle que je viens de vous poser, genre, qui sont ces femmes ? Ouais. La deuxième question, mais est-ce qu'on peut questionner la bonne foi de ces détenus qui entretiennent des relations avec ces femmes alors qu'eux sont en prison, donc ils ont tout à gagner, et elles peut-être tout à perdre ?
C'est toute la question qui traverse le livre aussi, évidemment, parce qu'elles, je ne doute pas de leur bonne foi. Je ne doute pas à chaque fois qu'elles aient cette volonté-là de changer l'autre. De leur part à eux, y a deux camps qui s'affrontent, hein, qui s'opposent. J'ai interviewé les avocats de certains de ces hommes qui eux, sont vent debout quand on leur dit qu'il s'agit que d'emprise et d'intérêt de la part de ces hommes, et qui disent « Mais pourquoi dénier à mon client ou mes clients la possibilité d'être réellement amoureux ?» Oui, ils sont passés à l'acte. Oui, le moment du passage à l'acte, c'est parce que ce sont des hommes qui sont clivés. Mais hormis ce moment-là, pourquoi ne serait-il pas traversé parce que nous, on vit aussi qui sont des sentiments amoureux réels. Chacun jugera. Oui. Mais de l'autre côté, on ne peut pas s'empêcher d'écouter aussi des procureurs que j'interviewe dans le livre, comme le procureur d'Alest ou des anciens directeurs de Centrale, qui me disent « Moi, je n'y vois que de l'emprise, parce qu'il y a un intérêt chez ces hommes-là qui est celui d'avoir éventuellement des rapports sexuels, des rapports amoureux et donc des rapports sexuels dont ils sont privés, éventuellement d'avoir aussi une manne financière parce que ça leur permet de cantiner. » Et puis aussi, un petit rayon de soleil parce qu'on leur raconte la vie à l'extérieur et qu'ils ne sont plus dans un isolement complet. Bon, moi, je crois que là encore, moi, je suis tout sauf manichéenne et qu'il y a un peu des deux. Et évidemment que j'irai peut-être pas jusqu'à de l'emprise parfois, mais parfois aussi. Mais il y a de l'intérêt, en tout cas.
Oui,
et puis, pourquoi pas de l'amour ?
C'est parfois des hommes qui ont, vous le disiez, du sang sur les mains.
Oui.
Donc évidemment, on a du mal à imaginer qu'ils puissent vivre un idylle amoureux dans le respect de la personne en face, alors que...
Mais parfois, et force est de constater quand j'ai travaillé sur ce livre, qu'il y a des amours en tout cas qui durent. Donc est-ce qu'elles durent par intérêt ou est-ce qu'elles durent par amour ? Mais force est de constater qu'elles durent. Elles durent. Voilà. J'essaie de me positionner non pas en juge, parce que mon métier c'est pas juge, c'est journaliste. Donc je pose des questions, je donne les réponses que j'ai réussi à trouver, et chacun après se fera son opinion. D'ailleurs, c'était un peu compliqué, moi, de trouver ma juste place dans ces interviews que j'ai menées, et surtout quand j'ai interviewé ces femmes, parce que l'idée était de ne pas être en empathie,
naïve,
voilà, et en même temps, ne pas être dans le jugement non plus. Donc, il fallait qu'à chaque fois que je trouve la juste place, et en même temps, elles m'ont accordé une confiance absolue. Donc, je ne pouvais pas non plus être trop distante d'elles, parce que je leur suis reconnaissante d'avoir osé s'exprimer à cœur ouvert comme elles l'ont fait.
Justement, vous en avez rencontré une qui s'appelle Elisabeth,
oui,
qui a été amoureuse de Nordal Lelandais.
Oui.
Et dans une actualité où on a appris très récemment qu'il avait eu un enfant alors qu'il était en prison, donc pas avec elle, mais avec une autre femme. Mm-hmm. Et elle, en l'occurrence, pour revenir sur la bonne foi des détenus, en l'occurrence, l'histoire s'est très mal passée pour elle. Elle en garde un très, très mauvais souvenir. Oui. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec cette femme ? Qu'est-ce qui vous a marqué chez elle ?
Alors, Elisabeth, ce qui m'a marqué d'abord, c'était que pour l'approcher, il a fallu vraiment... C'est le petit prince qui essaye d'amadouer le renard, quoi. C'est-à-dire que c'était une femme meurtrie, qui n'avait qu'une hantise, c'est qu'on la traque, qu'on la cherche, qu'on la trouve, qu'on l'expose, qui s'était exprimée une seule fois dans la presse, parce qu'elle avait peur de Dandal Le Landais, parce que, justement, leur relation s'était mal terminée, au terme de 3 ans, quand même, de relation. Et puis, ce qui a emporté, si j'ose dire, sa décision, c'est que lorsque nous étions en train de dialoguer toutes les deux et qu'elle n'avait pas encore donné son feu vert complet, la presse a révélé l'existence d'une autre femme, qui n'est pas celle qui ensuite a
qui
eu
enceinte,
un bébé.
Okay.
Voilà. Et là, elle m'a dit, écoutez, Valérie, je vais vous parler parce que je voudrais alerter.
Oui, c'est ça.
Et je voudrais que d'autres femmes ne vivent pas ce que j'ai vécu, qu'ils ne tombent pas de l'armoire, n'aient pas la désillusion que j'ai connue et ne se trimballent pas la culpabilité que je me trimballe aujourd'hui. C'est ce qui a emporté le fait qu'elle décide de s'exprimer. Et elle a réellement vécu une histoire d'amour. En tout cas, elle l'a vécue comme telle. Je ne suis pas certaine que du côté de Dandal Le Landais, ça a été la même chose.
Et elle ne croit pas justement au fait que potentiellement, avec une autre femme, ça... cette autre femme pourrait le changer. Est-ce qu'elle croit encore un peu une rédemption
en tout cas, lorsque très récemment, on a appris la paternité de Dandal Le Landais, elle m'a immédiatement écrit. Et ça m'a frappée. La phrase qu'elle m'a écrite était la suivante. Il ne cessera donc jamais de semer la désolation autour de lui. Donc, elle anticipait déjà ce qu'allait être la vie de cette femme, cette nouvelle femme. Et elle a eu immédiatement une pensée pour l'enfant en disant, mais cet enfant a ce père-là, cet homme-là, ce meurtrier-là.
Qui a tué un enfant, en plus.
Qui a tué une enfant. Donc, je crois qu'elle n'y croit, elle n'y croit plus parce qu'elle y a cru.
Ouais.
Elle y a cru.
Bon, après, il n'y a pas que des mauvaises rencontres.
Non. C'est pour ça que c'est étonnant.
Ouais, ouais. Et par exemple, vous parlez d'une certaine Sophia que vous avez rencontrée, qui, pour le coup, a une belle histoire. Et est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement son
histoire ? Sophia, c'est une maîtresse-femme. Moi, elle m'a bluffée parce que, voilà, c'est une femme de caractère. Elle a une 60aine d'années, grande famille, dans le milieu du cinéma, très grande productrice, qui a des centaines de personnes sous ses ordres, belles études, rien ne prédestine à rencontrer
un
prisonnier.
Oui, c'est pas une petite âme fragile
voilà.
en peine.
Non, et c'est même une femme dont elle me disait d'ailleurs, les hommes ont peur de moi, donc c'était assez drôle. Et puis Sophia, dans le cadre de son travail, est une productrice un peu de terrain, donc elle va voir sur le terrain les films qui se montent avec son label. Et dans ce cadre-ci, il y a un tournage qui a lieu en prison. Ça se passe en Italie. Et elle découvre plusieurs prisonniers qui ont eu la possibilité de participer à la création du film, en tout cas de pousser les caméras, porter le matériel, etc. Et elle remarque un type un peu particulier qui lui semble un peu différent des autres, qui est tout le temps avec des bouquins sous le bras. Et là, ce type-là qui vient, qui ne dit rien, qui se pose dans un coin, qui regarde le tournage, mais qui a tout le temps des bouquins différents sous le bras, l'intrigue. Ils finissent par parler. Elle ne sait pas ce qu'il a fait, elle ne le lui demande pas. Mais elle lui demande simplement pourquoi ces livres ? Qu'est-ce que c'est que ces livres ? Et il lui explique que, eh bien, dans le cadre de son incarcération, il a le droit de sortir de la prison. Parce que c'est bien conduit, et qu'il va suivre des cours de sciences politiques la journée, qu'il rentre le soir, et que donc, voilà, il poursuit ses études. Et ça la bluffe un peu. Et elle le trouve assez... elle dit, ils étaient tous intéressants, mais celui-ci me frappe. Bon, ça s'arrête que là. Fin de l'histoire. Elle rentre en France, en l'occurrence, parce que le tournage avait lieu en Italie. Et son associé lui dit, bah, tu sais, on devrait, pour les remercier, leur envoyer des DVD. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des DVD. Des goodies.
Ouais.
Et puis, voilà. Et elle reçoit une lettre en retour, qui est une lettre écrite par cet homme-là, mais au nom de tous les prisonniers, qui n'est pas du tout une lettre amoureuse, mais pour remercier, un, pour le tournage, deux, pour les goodies, etc. Et l'associé de Sophia lui dit, écoute, tu ne peux pas ne pas lui répondre, il faut que tu lui répondes, voilà. Elle, ça l'enquiquine, elle dit, moi déjà, les lettres, ça m'enquiquine. Mais
le tournage est fini,
voilà.
Ciao.
Mais sous l'insistance de son associé, elle finit par lui répondre. Il va y avoir un échange épistolaire, me dit-elle, beaucoup plus soutenu et intéressant qu'elle ne l'imaginait. Elle découvre un homme qui a une vraie culture, il parle de politique, il parle de la vie, il parle... Et une relation qui se tisse comme ça, jusqu'à une possibilité de sortie de ce monsieur, en tout cas de sortie pour 24 heures. Là-bas, ils ont aussi des sortes d'UVF un peu particuliers, d'unité de vie familiale, qui sont des petits appartements, mais carrément à l'extérieur de la prison,
okay.
Avec chaperon. Et elle va donc le voir. Et ben, ils vont tomber amoureux réellement. Et ils ont une différence d'âge assez importante. Mais malgré tout, voilà, l'histoire va prendre tournure. Et ils vont avoir comme ça une relation amoureuse. Mais elle ne lui demande rien, il ne lui demande rien en retour. Et autour d'elle, elle n'en parle pas plus que ça parce que, d'abord, un, c'est une maîtresse femme et personne ne lui dit ce qu'elle a à faire. Et donc, c'est ça qui me plaît aussi chez elle. Et je lui dis, mais Sophia, tu ne lui demandes pas ce qu'il a fait ?
Ouais.
Elle me dit, ça ne me regarde pas. Alors moi, les bras m'en tombent. Ouais. Mais quand même, elle me dit, non, il est brillant. C'est pas l'homme avec qui je parle, celui qui visiblement a été en prison. C'est pas l'homme avec qui je
elle
parle.
Elle cloisonne, en fait.
Je cloisonne. Je mets à distance, ça ne me regarde pas. Finalement, au cours de leur année de relation, elle apprendra que c'était un petit gars un peu... peut-être un petit homme de main, de petit gangster,
ouais,
et qui devait aller récupérer, braquer des comptables de boîte de nuit, etc. Un de ces braquages tourne mal, puisque le comptable de la boîte de nuit en question lui-même était armé. Échange de tirs, il tue l'homme en question. Il a 19 ans à l'époque. Il plaide sa cause, il prendra donc 20 ans. Et donc, c'est un jeune homme, malgré tout, quand elle le rencontre. Il a à peine 40 ans, hein, donc... Et quand il sort, elle va lui dire, qu'est-ce qu'on fait ? Et ils vont passer un week-end ensemble, dans un hôtel. Et elle lui dira, bah écoute, voilà, si tu veux me suivre... Parce que moi, je ne vais pas rester en Italie, mais si tu veux me suivre en France, t'es le bienvenu, mais moi, je ne te demande rien. Et il lui dit, mais je viens, je lâche tout, je viens. De toute façon, je n'ai pas de perspective en Italie,
oui.
Mais voilà, je te suis. Et elle me et là j'avoue que voilà je dis mais enfin vous l'avez présenté enfin vous côtoyez le beau monde vous êtes et elle me dit oui parce que je pensais que mes amis seraient suffisamment intelligents pour voir qui il était au-delà de ce qu'il avait fait.
Oui.
Et puis elle me dit autre chose parce que je lui parle par exemple d'Elisabeth.
Oui, il a pas tué de sang-froid lui.
Il a pas tué de sang-froid, il avait 19 ans et il n'a pas tué d'enfant ou ce n'était pas un violeur, c'était pas... Voilà. Et elle me dit, je fais le distinguo. Maintenant, je ne juge pas Elisabeth, mais moi, je n'aurais pas pu.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Elle arrive à... Voilà.
Elle hiérarchise quand même.
Voilà. Il se trouve qu'il est sorti, que ça fait 12 ans qu'ils se sont mariés et qu'ils sont toujours ensemble et qu'il n'a évidemment pas transgressé à nouveau la loi et pas bougé une oreille et qu'ils sont très, très heureux. Donc voilà, c'est une autre... Et c'est vrai que c'était intéressant parce que ça me permettait aussi de... Moi, dans toutes ces femmes, j'ai essayé à chaque fois, et ça me déstabilisait, de savoir en quoi elles étaient dissemblables de moi. Ça, c'est assez simple parfois. Mais en quoi elles me ressemblaient. Et parfois, certaines me ressemblaient bien plus que je ne l'aurais imaginé. Et donc, ça ouvre d'autres questionnements et d'autres interrogations.
Pour revenir sur le fonctionnement, à proprement parler, des prisons, surtout en France,
oui.
Est-ce que c'est facile d'envoyer un courrier à un détenu là, si demain, je veux contacter
oui.
quelqu'un
Oui, il suffit de savoir le numéro d'écrou. Et si, même si vous ne le savez pas, vous envoyez à la prison. Alors, il y a deux possibilités. Soit le détenu en question, il n'a pas encore fait son procès, et auquel cas, c'est le juge qui décidera si oui ou non il a accès, parce qu'il est en détention provisoire, s'il a accès ou pas à votre courrier, soit il a été déjà jugé, et là, c'est l'administration pénitentiaire qui décidera si oui ou non il a accès à votre courrier. À partir du moment où ensuite on accepte que votre courrier, et que vous soyez sur la liste de ceux à qui il peut recevoir dont il peut recevoir le courrier, bah voilà, vous pouvez commencer une relation épistolaire.
Et tous les courriers sont lus avant
Tous les courriers sont lus, bien évidemment, par l'administration, alors plus ou moins en diagonale, et puis voilà, mais évidemment, tous les courriers sont lus. Mais
on peut s'interroger. Les fuites d'information
ou... Bien sûr, oui, évidemment. Mais on peut s'interroger sur est-ce qu'on doit donner le courrier à deux personnes qui ne connaissaient pas. Enfin, en l'occurrence, il y a des enquêtes qui sont faites, pas forcément sur le courrier, mais quand la personne demande ensuite à aller en prison visiter. Quand on oui. demande une autorisation de visite, une autorisation de parloir, là, l'administration fait une enquête sur vous pour savoir si vous pouvez ou pas. Vous évoquiez Elisabeth. Elle a fait trois demandes à l'administration avant d'obtenir enfin le sésame pour aller voir Nordal Le Landais. Elle avait été retoquée trois fois.
Donc, et pour avoir un parloir, c'est justement c'est une procédure qui est plus compliquée.
Bah, c'est une procédure un peu plus. On laisse moins rentrer. C'est une procédure un peu plus particulière où là, effectivement, on va d'abord s'assurer de votre équilibre, de savoir si vous allez bien, si vous n'êtes pas sous pression, si on ne vous oblige pas.
Ça dépend du détenu voilà, aussi, voilà. J'imagine.
Exactement.
Et pour les unités de vie familiale, justement, ça, c'est comment ça se demande? C'est au bout de combien de temps? Quelle est la procédure? Et vous parliez de petits appartements à l'extérieur. En France, comment, à quoi ça ressemble?
Alors, c'est un petit appartement, là aussi, petit studio, hein, avec une kitchenette, un salon, salle à manger, une chambre. Toutes les centrales ne sont pas pourvues et toutes les prisons ne sont pas pourvues de d'UV. Enfin, il n'y en a pas dans toutes les prisons. Et après, c'est une demande qui doit être conjointe. C'est-à-dire que la personne à l'extérieur doit faire la demande et la personne prisonnière doit faire la demande. Ça, c'est une façon de s'assurer aussi qu'il n'y a pas une contrainte, une pression qui est faite de la personne à l'intérieur sur la personne à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, vous avez accès à cette UVF. Alors, ça peut être de 24 heures jusqu'à 72 heures. Dans l'esprit du législateur, c'était essentiellement pour que les familles puissent se retrouver, notamment avec les enfants, et les époux. Lorsque j'ai écrit le livre, c'est vrai que certains de mes interlocuteurs, et notamment des directeurs de prison, estimaient que l'octroi de l'UVF, notamment à Nordal-Lelandais, avait plutôt été dévoyé et qu'eux ne comprenaient pas pourquoi il avait, par exemple, lui, était un prisonnier qui avait accès à un UVF. Et d'ailleurs, même Maître Jakubowicz, que j'interview dans le livre, avait été étonné d'apprendre que son client avait eu droit à l'UVF.
Mais donc, il y a eu une erreur. Quoi,
Pas forcément une erreur, c'est la discrétion de l'administration pénitentiaire qui décide de vous le donner ou pas.
C'est elle seule qui choisit.
C'est elle qui décide.
Il n'y a pas de juge dans ce cas-là ou d'avocat.
Non.
Ok, d'accord. Et c'est filmé à l'intérieur ou
c'est pas filmé.
Il y a des gardiens qui passent.
Il y a des gardiens qui passent. En revanche, il y a un œilleton, bien sûr, qui viennent vérifier si tout se passe bien, viennent frapper à la porte pour voir si tout se passe bien en fonction de ronde. Mais le principe est une intimité un petit peu plus préservée.
Ouais. Mais dans le risque que ça puisse tourner mal aussi, en fait.
C'est un risque, mais a priori, normalement non. Mais bon.
Pour en revenir au parloir, dans certaines des affaires que vous traitez, on entend que justement dans les parloirs normalement, donc ce qui est pas l'UVF, qui est plus, en fait les parloirs c'est une sorte de salle avec des chaises et des tables.
Exactement.
Où plusieurs
personnes. Ça dépend des configurations de prison, mais essentiellement, enfin en l'occurrence, je vois d'où vous venez parler. Ouais. Oui, effectivement. Et puis il y a ce qu'on appelle des mouvements. Parfois, il y a des prisonniers qui ne doivent pas être en contact avec d'autres.
Ouais.
Donc, on attend que les mouvements soient finis pour faire entrer le prisonnier qui, lui, est à l'isolement, par exemple. Voilà.
Donc, ça peut être des salles toutes seules, mais ça peut aussi être une grande salle
avec
de classe.
Avec différents petits box, entre guillemets.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, petits box, quand même. Parce que, justement, dans ces parloirs, il s'y passe beaucoup de choses. Et à savoir, par exemple, les relations sexuelles sont interdites. Et pourtant, Nordal-Lelandais aurait eu un enfant de cette manière-là. Mmh. On sait, par exemple, dans le cadre d'Elisabeth, qu'elle a réussi à faire passer de la drogue aux détenus qu'elle allait voir, donc Nordal-Lelandais, encore une fois. Mm-hmm. Et comment c'est possible que ça arrive? Est-ce que c'est parce que, forcément, sur 365 jours, il y a forcément un jour où il y a une petite inattention
ou... Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'abord, c'est une micro-société, la prison, et qu'on manque énormément de personnel. Les surveillants de prison, j'interviewe d'ailleurs Wilfried Funk, qui est un des surveillants qui accepte de me parler dans le livre, un syndicaliste formidable d'ailleurs, qui m'explique que parfois il y a des centrales où ils sont trois fois, quatre fois supérieurs le nombre de prisonniers à ce qu'ils devraient normalement devoir surveiller par gardien, par surveillant. Pour ce qui est des rapports sexuels dans l'enceinte de la prison, au moment des parloirs, c'est à la discrétion du gardien parfois. En fait, il faut aussi acheter une sorte de paix sociale.
Oui.
Donc, ça peut être parfois parce que on décide de fermer les yeux parce que le prisonnier en question s'est extrêmement bien conduit, donc on veut le récompenser. Parce que aussi, c'est son épouse et que donc on sait que ce sont des relations conjugales entre guillemets. Ou à l'inverse, parce que parfois on sent que la tension est très forte et que ça pourrait dégénérer. Il faut calmer le bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et puis il me dit, Wilfried Funk me dit d'ailleurs. D'ailleurs, quand on voit un prisonnier venir avec un drap sous le bras, on se doute bien que c'est parce qu'il va s'isoler au parloir. Et on décide ou pas de fermer les yeux.
Ouais.
Et puis, certains surveillants ne ferment pas les yeux parce que la situation ne le permet pas et parce que le détenu en question, c'est pas le moment justement de fermer les yeux sur lui. Et puis parfois, je vous le disais, pour récompenser ou pour apaiser, on ferme les yeux.
C'est difficile à entendre ça pour des familles de victimes, par exemple, de se dire, typiquement, pour ça a été tout le sujet pour Nordal Lelandais.
Oui.
Il a eu une relation sexuelle interdite dans un parloir, alors que, et il a maintenant un enfant, alors que nous, on n'a plus notre petite
Bien
Maryse,
sûr, bien
quoi.
Sûr. Après, encore une fois, j'essaie toujours de faire le contradictoire, de garder le cap et de ne pas être dans l'émotion. Il y a deux choses qui s'opposent, c'est-à-dire que les avocats vous diront, et c'est tous ces hommes-là, y compris jusqu'au paroxysme, hein, jusqu'à ceux qui ont tué de façon terrible et horrible, et que sont des tueurs en série, ils ont été condamnés par la justice, par la privation de liberté, pas par la privation du reste. Mmh. C'est ce que me disent les avocats, et notamment Maître Ponce, par exemple, qui est l'avocate de Guy Georges. Ce sont deux visions qui s'opposent. État de droit, privation de liberté, ça ne veut pas dire une privation des relations sociales, etc. Je précise malgré tout qu'ils enfreignent un règlement. Hein, bah, voilà. Mais on décide ou pas sciemment de fermer les yeux.
Après, il y a aussi une mentalité autour des prisons qui a évolué. Une époque, c'était les galères. C'était le but, c'était vraiment de subir cette vie en prison. Maintenant, on est beaucoup plus dans une philosophie un peu de la rédemption, mmh. avec beaucoup de programmes de réinsertion des prisonniers. Donc, tout ça, ça forge un peu un imaginaire pour un public qui n'a pas du tout l'habitude des prisons, des gens qui n'ont jamais eu affaire dans leurs proches ou eux-mêmes. Et il y a la fameuse phrase « Est-ce que les prisons ne seraient pas devenues des clubs med ?»
Oui. Franchement, je crois que ceux qui le disent n'ont jamais mis un pied en prison. Les conditions de d'ailleurs on est régulièrement pointé du doigt hein, sur les conditions de détention. Je ne dis pas que si vous arrivez en prison vous ne le méritez pas hein. C'est pas ce que je dis hein. Mais je dis qu'effectivement il y a des conditions de détention qui sont assez compliquées, qu'il y a certaines et notamment certaines centrales où on est à deux fois voire trois fois le nombre de prisonniers dans une même cellule par rapport au nombre qui était a priori autorisé par le législateur, etc. Où il y a des rats, où il y a des... Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer la prison en disant c'est devenu un truc idyllique. J'ai entendu même certains qui disaient « Ah, mais c'est devenu un... » Pardon pour la vulgarité, un bésodrome, Club Med, où on met... Parce qu'on avait vu une vidéo d'un prisonnier avec une piscine gonflable dans la...
Ouais.
Voilà. Évidemment qu'il y a des épiphénomènes et des choses comme ça, mais je crois que pour l'ensemble de la majorité des prisonniers, c'est pas un moment particulièrement agréable, bien évidemment.
C'est comme certains ont accès aux réseaux sociaux, il y a des vidéos
où
eux se filment dans leur cellule et en fait, ils ont leurs jeux vidéo, ils s'amusent, ils se chambrent et on se dit... Bon, ça n'a pas l'air d'être... Voilà. Enfin, on oublie peut-être aussi...
Je crois qu'on oublie ce que c'est que d'être, pour certains, à l'isolement. Et puis, je crois qu'on oublie ce que c'est que la promiscuité, le manque d'intimité, une douche par semaine, parfois, l'idée de se retrouver à 4 ou 5 dans une même cellule et de devoir... avoir toute son hygiène au-dessus de tous, enfin, et puis ce que c'est que de dormir avec les bruits de la prison, avec les... Encore une fois, je ne dis pas que ce sont des enfants de cœur et qu'ils mériteraient d'être dans des palaces 5 étoiles, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il faut pas non plus idéaliser et dire, mais regardez, finalement, ça ou le Club Med, c'est la même chose. Je n'y crois pas un instant.
Pour revenir sur le sujet tout à l'heure où on disait que c'était exclusivement féminin et qu'il y avait quelque chose de l'ordre du désir féminin, vous avez pointé le fait que c'est vrai que de dire le mot féminin aujourd'hui, c'est compliqué.
Ouais.
Et justement, est-ce que vous avez déjà été... vous avez déjà pris des remarques là-dessus ou est-ce que vous craignez des remarques, par exemple, de certaines féministes un peu virulentes aujourd'hui qui vont vous dire, à une époque où on n'a même plus le droit de comparer un homme et une femme parce que maintenant tout est fluide, de dire, bah voilà, il y a un phénomène qui est féminin et en fait ça existe. Et voilà. Est-ce que vous avez un peu peur de ça
Non, j'ai pas peur, mais je me doute que oui, peut-être que pour certaines ça peut heurter en disant, on dit une bêtise quand on dit le féminin, il n'y a pas d'assignation, etc. Il se trouve que moi je suis un peu basique, je regarde de façon empirique les choses et que sur 100% de courriers, il y a 80% ou 75% de courriers qui sont des courriers de femmes envoyés à des hommes et que ce phénomène qui est l'hybristophilie, c'est le nom pour les femmes attirées par ces hommes qui ont du sang sur les mains, c'est le phénomène le plus majeur. Encore une fois, il relève de quelque chose que la psychanalyse et la psychiatrie relèvent et travaillent dessus. Donc, j'invente rien, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, pas bien, etc. Je ne mets pas, là encore, de jugement de valeur là-dessus. Simplement, je constate, et c'est assez empirique. Si on fait un peu le tour, moi j'ai un peu fait le tour de tout ce qui se passe dans le monde. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Norvège, Andrés Breivik, ce tueur mass-murderer hein, qui a, je crois, 71 victimes à son actif. Il reçoit 800 lettres de femmes par mois. 800 lettres de femmes par mois. Voilà, Lucas Magnotta au Canada, le dépeceur de Montréal, qui est pourtant ouvertement homosexuel. Donc, on sait, les femmes.
Et puis le Canada n'est pas un pays non plus très rétrograde.
Voilà, les femmes savent qu'elles n'auront rien de cet homme-là, en tout cas de rapport amoureux ni rien, puisqu'il n'aime que les hommes. Lucas Magnotta a des blogs, Lucas Forever, I Love You Lucas, a eu des demandes en mariage. Il se trouve qu'ensuite, Lucas Magnotta s'est marié avec un co-détenu. Homme dans une prison canadienne. Donc voilà, donc je constate un phénomène, c'est tout. Voilà, mais
certaines pourraient dire bon voilà, on fait encore passer les femmes pour des naïves qui ont besoin de vivre en se reconnaissant par rapport à un homme.
Si elles ont envie d'être simplistes, moi ça me gêne pas. Enfin tant pis. J'essaye justement de montrer qu'il y a beaucoup plus de complexité que ça et que justement il y a par ailleurs et il faut le noter de la part de la société une forme de sexisme. Qui pointe ces femmes du doigt en disant, c'est la lali quoi sur ces femmes-là. Ce sont les nouvelles sorcières de Salem. Il faut les brûler parce que justement la société et d'ailleurs Daniel Zaguri me le dit ne supporte pas l'idée qu'une femme puisse se frotter au mal ou tombe amoureuse du mal, qui par ailleurs n'est pas que le mal puisque ces hommes-là ne sont pas que les crimes qu'ils ont commis. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi... Moi, je suis allée voir après, notamment, les annonces de l'existence d'Elisabeth dans la presse, à l'époque où moi, j'ai commencé l'enquête, sous les articles de presse. Vous savez, il y a les forums de lecteurs. Mais qu'est-ce que je n'ai pas lu sur elle ? Il fallait la tuer, il fallait la violer. C'était une, pardonnez-moi encore pour les mots, une salope. Elle avait presque plus de culpabilité que Norda Lelandais, qui lui-même avait quand même tué deux personnes, un jeune homme et une petite fille. On la mettait au même rang, elle avait du sang sur les mains au même titre que lui. Donc ça interroge sur l'idée de la femme aussi qu'on peut avoir, qui doit être une madone et qui ne doit pas, et dont la sexualité doit être exempte de tout frottement avec des choses qui pourraient heurter. Donc ça interroge aussi, et c'est paradoxalement peut-être plus féministe que je m'interroge là-dessus.
Moi, je ne peux pas vous recevoir ici sans parler, évidemment, de Touche pas à mon poste, j'en profite sur la fin.
Allons-y.
Pour vous poser quelques questions, notamment parce que vous avez intégré la nouvelle émission du week-end Face à Hanouna, qui s'est lancée il y a une semaine.
Trois semaines déjà. Maintenant, ouais.
C'est vrai que ça passe vite. Question qui moi, m'intéresse et j'espère intéressera les autres. Ça fait combien de temps que vous connaissez Cyril Hanouna ?
Alors, que nous connaissons, je crois, une vingtaine d'années. Ouais.
Et que vous travaillez ensemble ?
Et qu'on travaille ensemble depuis... je vais rentrer dans la 12e année. Ouais.
Et ça a été... ça correspond à quoi, Touche pas à mon poste, dans votre carrière ? Qu'est-ce que ça a changé
Ça a été une vraie bascule. Parce que moi, je suis une enfant de l'école TF1. Parce que... ensuite, j'ai fait quelques années sur France Télévisions. Et puis j'étais à un moment d'ailleurs un peu particulier dans ma carrière où j'avais... quasiment abandonné l'idée de refaire de la télé. J'étais venue voir Cyril pour toute autre chose. J'étais au théâtre, donc vous voyez, vraiment... Et il m'a dit, mais viens parler de ta pièce de théâtre à la télé dans l'émission. Et c'est pendant l'émission, on a retrouvé des réflexes de vieux camarades. Et il m'a dit, mais ça vous dirait de venir faire chroniqueuse dans l'émission? Moi, je pensais vraiment, parce que Cyril propose très souvent ce genre de choses, donc j'ai vraiment cru à une boutade. J'ai dit, mais allez, chiche, bien sûr. Et quelle ne fut pas ma surprise quand le lendemain, j'ai son programmateur qui m'a appelé en disant, vous avez dit oui hier, est-ce que vraiment vous le souhaitez? Je dis, écoutez, c'est pas une blague, si c'est pas une blague, avec plaisir, je viens. J'ai commencé une fois par semaine, deux fois par semaine, et puis ça va faire bientôt 12 ans. Et je dis une bascule parce que j'ai découvert un nouveau public que je n'avais pas. Moi, mon public avait un peu vieilli, avec moi. Et j'ai redécouvert un nouveau public qui a revieilli avec moi. Donc, ça a étoffé les gens qui soit me suivaient, soit m'ont découvert. Et puis, moi, ça m'a peut-être un peu décorsetée, parce que j'étais peut-être une animatrice plus... qui suivait un conducteur beaucoup plus carré,
plus scolaire.
Et avec Cyril, on suit ses impros. Donc
c'est de l'impro,
rentre,
ouais,
voilà, on suit. Alors, pas à 100%, parce qu'on a un conducteur et une équipe qui travaille vraiment d'arrache-pied. Et on a tous vraiment tout. Mais il faut être prêt à toutes tout ce qui peut se produire. Et pour le coup, moi, ça me fait infiniment plaisir, parce que ça m'oblige à rester connectée avec l'air du temps, à rester connectée avec ce qui se passe dans notre société. Parce qu'il a pu lire un truc 2 secondes avant l'antenne. Il faut que nous, on soit au courant. Et il nous le balance à l'antenne. Et il faut qu'on ait quand même, nous, des biscuits. Et donc, moi qui suis papivore, qui lit la presse, qui adore ça, etc., et donc, parce que je suis et resterai à vie jusqu'à la fin journaliste dans le cœur et dans l'âme, c'est formidable, parce que ça m'oblige à rester jeune et à rester à l'affût de tout ce qui se passe dans notre société.
Vous attendiez au succès de cette émission ?
Celle du week-end ?
Celle-ci, et même Touche pas à mon poste en général.
Écoutez, moi, on a commencé, je crois qu'on faisait 400 ou 500 000 téléspectateurs, et ça a grandi. On était nous-mêmes surpris, les premiers surpris, et enthousiastes et joyeux. Et c'est une aventure incroyable. Ouais. C'est une aventure à la fois humaine et professionnelle, moi, qui est incroyable. J'ai vécu d'autres aventures professionnelles, mais celle-ci, elle est dingue, parce que je trouve d'abord que, sans flagornerie aucune, il y a une petite révolution. Cette émission a révolutionné une façon de faire la télé.
La télé.
On a cassé des codes, avec en chef de file Cyril. Et moi, c'est une aventure professionnelle dingue, et puis humaine incroyable.
Vraiment. Vous rencontrez
Parce que autour de la table, on est tous aussi dissemblables que possible. Mais en même temps, on a un point commun qui est l'amour de la télé, l'amour de la société, d'essayer de comprendre les choses, en même temps de s'amuser. On est des gamins entre 40 et 50 ans. Et puis, je crois qu'on fait des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et puis on fait corps, on a un esprit de troupe.
Bah c'est ça, à force depuis le temps, vous connaissez suffisamment bien pour pouvoir vous amuser. Quoi.
C'est ça.
C'est sympa. Et sur la dernière émission, donc face à Hanouna, il y a eu polémique entre guillemets, disant que le plateau était trop à droite. Est-ce que ça vous arrive souvent qu'on vous reproche ce genre de choses ? Qu'est-ce que vous répondez à
ça ? On est une émission particulièrement scrutée, donc on aime bien en ce moment nous taper dessus, trouver tout et n'importe quoi. Moi, ce qui me chagrine, c'est l'hémiplégie de ceux qui viennent nous critiquer, parce qu'ils vont citer un ou deux noms. Et ils vont omettre de citer les autres. Quand on vient m'opposer, sur l'émission du week-end, Juliette Briens ou Baya Carla, on oublie de citer Rost et Gilles Verdez. Donc cette hémiplégie, moi, me laisse pantoise. Et puis moi, qui, je crois, n'ai jamais dit où je me situais. Donc c'est assez désolant. Et par ailleurs, en ce moment... Il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression qu'on prend les téléspectateurs pour des enfants, qu'on les infantilise et qu'on leur dit voilà ce qu'il faut regarder, comment le regarder. Et puis si vous regardez mal, on va vous taper sur les doigts. Et ça me chagrine. Et par ailleurs aussi, je suis absolument désolée du manque de confraternité de ma profession, les journalistes. Je pense qu'on devrait tous être vent debout. Contre l'idée qu'il y aurait une pensée unique et que les journalistes devraient être dans une forme de doxa,
Typiquement avec ce qui se passe avec l'ARCOM.
Exactement. Et moi, je pense qu'au contraire, on devrait tous... Moi, je me battrais pour que toutes les idées puissent s'exprimer. C'est la fameuse phrase qu'on impute à Voltaire. Alors, je ne sais pas si certains disent qu'elle n'est pas de lui.
On n'a jamais su.
Mais malgré tout, je me battrais toujours et je refuse la censure. Et moi, je suis très, très, très heureuse qu'il y ait Le Figaro, L'Humanité, Libération, Le Parisien,
et
voilà, Valeurs Actuelles. Moi, au contraire, c'est ça être en démocratie.
Comme on a du mal à se retrouver autour d'une table avec des idées différentes, et c'est ce qu'a réussi d'ailleurs TPMP, c'est vrai que d'avoir différents journaux permet un peu aussi
bien
de... Voilà. Et comme il n'y a plus de journaux qui peuvent se dire un peu des deux, parce qu'en fait, les uns ou les autres boycottent ou je ne sais pas quoi... C'est vrai que c'est, s'il n'y a plus ça, oui, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, c'est vraiment dommage. Et tout comme je déplore parfois pour, chez certains la politique de la chaise vide, on ne répond pas à un micro parce que le micro ne vous plaît pas, ou on ne se rend pas à une invitation parce que... Après, chacun fait comme il l'entend, mais après, on ne peut pas dire « bah, vous ne m'invitez pas oui. ». Si, parce qu'on vous invite, mais vous
ne venez pas.
Vous ne venez pas. Donc voilà, ça me... J'avoue ne pas comprendre, en fait. Et ça me peine. C'est même pas un truc de... C'est que ça me peine, parce que moi, j'aime la France plurielle, j'aime l'idée qu'on puisse tous débattre calmement, sereinement, avec sur le fond, avec des gens qui ne sont, avec lesquels je ne suis, moi, par ailleurs, pas forcément d'accord. Donc c'est vraiment... Pour reprendre TPMP ou face à Hanouna, moi, pour moi, c'est une agora moderne. Et dans une agora, il faut que tout le monde puisse exprimer tous les courants de pensée.
Et sinon, ça n'a pas vraiment...
Voilà. Intérêt. Évidemment, dans le cadre de la loi, sans débordement, mais que toutes les pensées puissent s'exprimer. Après, c'est... Voilà. Et je pense que Cyril sait tenir son plateau et qu'il n'y a jamais eu une phrase sur ses plateaux qui s'inscrive contre la loi. Voilà.
Et on pourra vous reprocher d'être venu chez nous ?
Bon, alors là, écoutez, moi, je parle à tout le monde. Donc, au même titre que vous m'évoquiez le féminisme ou je ne sais quoi, moi, je suis droite dans mes bottes. On me tend un micro, je réponds, voilà. Et je sais ce que je dis. Donc, oui. Voilà. Encore une fois, je veux pouvoir dialoguer avec tous. Si demain matin, je ne sais pas quel autre média qui serait à l'opposé du vôtre, l'Humanité m'invite, je viendrai avec plaisir. Si Libération m'invite, je viendrai avec plaisir. Si le Figaro m'invite, je viens avec plaisir. Je veux pouvoir parler à tout le monde, surtout sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est transpartisan,
plus, oui.
Qui est un sujet qui nous concerne, nous, les citoyens français.
Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à ma question. C'était un plaisir de vous
recevoir.
Merci
à vous.